À Niamey et à Kinshasa, il est tout juste 8h30, une heure de plus ici à Paris, à l'écoute d'RFI. Et c'est à vous, Edouard Dupénoat, pour le journal.
Et le Niger à la une de l'actualité africaine avec cette alerte sur les disparus de Chouaraf. Combien sont-ils, ces civils, à avoir été enlevés dans cette localité libyenne, vendus, relâchés, torturés début septembre par des hommes armés? Le forum d'affaires sur le coton au Bénin, première fois qu'il se tenait en Afrique, et justement, les pays producteurs du continent entendent profiter bien davantage de cette richesse, explication dans quelques minutes. El Fasher, toujours sous un tapis de bombes, les FSR, fidèles au général Emeti, pilonnent de nouveau cette ville de l'ouest du Soudan, et notamment des sites de déplacés. La mosquée, le marché pris pour cible. Polémique dans l'est de la RDC sur le naufrage de la semaine dernière sur le lac Kivu. Combien y avait-il de passagers à bord et donc combien de victimes potentielles? Associations et gouvernements peinent à s'entendre sur le sujet. Le POLA n'aura plus lieu. La Fondation Orange met fin à ce prix littéraire exigeant 100% africain. Il avait fait ses classes en à peine 6 ans. Les membres du jury dénoncent aussi la brutalité avec laquelle ils ont appris la nouvelle. Le sort de ressortissants nigériens enlevés en Libye fait donc l'objet de toutes les craintes de la société civile. L'ONG Alternative Espace Citoyen essaye de braquer l'attention sur le sort de ces civils kidnappés dans la localité de Chouaraf début septembre. Leur nombre exact n'est pas connu, l'ONG parle de plusieurs dizaines de personnes enlevées par des hommes armés. Au moins l'un d'entre eux serait mort, le sort des autres est très incertain. Il semble que certains aient été envoyés travailler de force avant d'être libérés par leurs employeurs. D'autres ne donnent plus aucune nouvelle. Dans le passé, Alternative Espace Citoyen avait alerté sur des cas d'enlèvement contre rançon. Mais cette fois-ci, les faits sont plus obscurs, comme nous l'explique Yahaya Badamassi, coordonnateur régional de l'ONG à Zinder.
Des éléments armés qui appartenaient à l'une des factions en Libye ont fait irruption dans les camps où logent les migrants nigériens. Ils ont tous été regroupés dans un camp où ils ont subi des actes de torture, de brimades. Un Nigérien a voulu s'évader. Il a été intercepté par ses forces. Ils l'ont soumis à des actes de torture qui lui ont coûté sa vie. Donc les autres compagnons d'infortune ont été conduits jusque-là en des lieux inconnus. Il y a ceux qui ont été libérés, parce que la plupart des compatriotes en Libye travaillent dans les jardins, dans les ateliers, dans les chantiers de construction. Et donc, ils ont des patrons libyens qui, dans ce genre de situation, interviennent pour libérer nos compatriotes. Étant même libres, ces compatriotes vivent dans la psychose totale. Ils sont inquiets de leur sort et du sort de leurs camarades. Aujourd'hui, sans nouvelles.
Yahaya Badamassi pour l'ONG Alternative Espace Citoyen à Zinder, propos recueillis par Magali Lagrange. L'ONG qui demande aux autorités de transition de tout faire diplomatiquement pour régler cette situation. Sur le Niger toujours, les derniers bilans humains des inondations revus encore à la hausse. 339 personnes sont mortes depuis le mois de juin. Plus d'un million de sinistrés selon l'agence nigérienne de presse. Les bureaux de vote ont ouvert il y a un peu plus de 2 heures au Mozambique. 17 millions d'électeurs sont attendus dans les isoloirs. Triple élection présidentielle, législative et élection provinciale avec des enjeux beaucoup plus ouverts que lors des derniers scrutins. Explication complète et détaillée à lire sur RFI.fr et sur notre application mobile. Processus électoral un peu plus lointain à Madagascar. On parle des municipales du 11 décembre prochain. Après bien des péripéties, la commission électorale a dévoilé hier soir tard la liste définitive des candidats aux quasi 1700 communes que compte la Grande Île. Il n'y a plus aucun recours possible. La fine fleur du coton mondial réunie ces derniers jours à Cotonou, la capitale économique béninoise, qui accueillait 400 acteurs mondiaux de la filière. Le forum coïncide avec la Journée mondiale du coton. Pour la première fois, il se tenait d'ailleurs sur le continent africain. Parler du coton en Afrique, c'est d'abord avoir en tête les 5 plus gros producteurs, le Bénin, le Mali, le Burkina, le Tchad et la Côte d'Ivoire, dit le groupe des C4+, tous ensemble pour réclamer que le continent profite davantage des richesses de cette matière première. Jean-Luc Aplogan.
Les producteurs africains ont saisi l'occasion pour rappeler avec insistance que l'Afrique ne profite pas assez de son or blanc. Le groupe des 5 premiers producteurs et exportateurs du coton africain regrette cette réalité. Des experts nationaux ont réfléchi à la bonne stratégie. La première anomalie à corriger est la situation des paysans. Consultés, ils formulent une requête que résume l'ancien ministre malien du commerce et de l'industrie, Haruna Niang.
Ils veulent que l'activité qu'ils mènent soit reconnue par le marché, par les politiques, et qu'ils aient de manière équitable la part qui leur revient Le coton pour eux, c'est leur vie, la vie de leurs enfants, leur avenir.
Certains experts et négociants européens pensent que les paysans vont gagner plus en augmentant leur rendement à l'hectare. Shadia Assouma, ministre du Commerce du Bénin, privilégie l'option de la transformation locale.
L'exploitation du coton ne peut pas être un produit de lutte contre la pauvreté, mais plutôt l'exploitation du coton transformé.
Le taux de transformation du coton brut en Afrique est faible. D'ici à 10 ans, il faut le porter à 25 ou 50% pour les plus ambitieux. Le Bénin, lui, rêve d'arriver à 100%. Le pays est dans la dynamique de la transformation depuis 2020. Il a été créé une zone industrielle pour la transformation des produits agricoles. Jean-Luc Aplogan, Cotonou. RFI.
Quelle spécificité pour le coton africain, quelle faiblesse aussi face aux mastodontes mondiaux. Le négociant Armand Ezerzer était notre invité hier à la mi-journée. Vous retrouvez son éclairage très clair sur cette question sur notre application RFI Pure Radio. La procédure de destitution du vice-président kényan franchit une étape clé. L'Assemblée a largement adopté hier la motion qui lui était présentée pour savoir si oui ou non Rigathi Gachagua doit être maintenu dans ses fonctions. 11 motifs de destitution ont été soumis aux députés, notamment des accusations de corruption et d'insubordination envers le président Ruto. Complot politique, pure propagande, dit le vice-président. Le Sénat doit maintenant se pencher sur le texte à son tour. La guerre continue de faire rage autour de la ville d'El Fasher, dans l'ouest du Soudan, au mépris, une fois encore, des règles internationales. La localité est la dernière du Darfour qui ne soit pas aux mains des forces de soutien rapide du général Emeti. Ils en pilonnent les environs, ainsi que plusieurs quartiers résidentiels depuis plusieurs semaines. Une vingtaine de civils ont été tués rien que depuis lundi, dans le bombardement d'un camp de déplacés. De déplacés d'ailleurs des massacres de 2003, Ouda Ibrahim.
La mosquée du camp de réfugiés d'Abu Chouk a été visée ce lundi, faisant, selon le comité de coordination de ce camp, un lourd bilan de victimes civiles, 10 morts et un nombre indéfini de blessés. Le lendemain, mardi, 8 victimes sont dénombrées dans le bombardement du même camp, mais cette fois-ci, ils visent le marché d'Abu Chouk. Déjà fin septembre, le bilan suite à ces bombardements à Al-Fasher s'élevait à 48 personnes mortes en 2 jours. Les habitants de la ville d'Al-Fasher, 2 millions à l'origine, 800 000 aujourd'hui selon l'ONU, vivent dans des conditions humanitaires très compliquées. La ville est encerclée par les FSR depuis plusieurs mois. Avant cela, Al-Fasher est restée longtemps à l'abri de la guerre, ce qui a poussé des milliers de déplacés à s'y réfugier avant d'être obligés de nouveau à fuir. L'ONU a exprimé son extrême inquiétude. La crainte porte sur des probables exactions qui viseraient certaines ethnies, comme en 2003.
Le Trésor américain, par ailleurs, fait savoir qu'il prend des sanctions contre Alkuni Hamdan Daglo, le frère du général Emeti. Les Américains l'accusent d'être l'un des financiers de cette guerre. Il aurait aussi contribué à fournir des armes aux miliciens Janjaweed. L'armée malienne indique qu'une opération de contrôle de zone est en cours depuis plusieurs jours dans la région de Kidal et que cette mission a permis de récupérer les dépouilles des frères d'armes des soldats tombés près de Tinzawaten à la fin du mois de juillet, lorsque les rebelles du CSP avaient tué plusieurs dizaines de soldats des FAMA et de mercenaires de l'ex-groupe Wagner. La controverse enfle dans l'est de la République démocratique du Congo, près d'une semaine après le naufrage sur le lac Kivu. Pour l'heure, les recherches sont au point mort après que la merveille de Dieu a chaviré non loin du port de Kitoukou, à côté de Goma. L'une des questions lancinantes concerne le nombre de passagers qui avaient embarqué au départ et donc le nombre de potentielles victimes. Le comité des victimes avance une liste de plus de 600 noms, mais le document officiel est maintenant introuvable. Et les autorités congolaises ne confirment pas ces chiffres. Correspondance héritier Baraka.
Selon la liste des passagers dressée par les comités des victimes du naufrage au port de Kitoukou et consultée par RFI, au moins 600 personnes auraient embarqué dans les bateaux direction Goma. Des corps seraient toujours dans les bateaux engloutis dans les lacs Kivu, comme l'explique Néhémie Habajoué, porte-parole des victimes.
Notre identification arrive à la date d'aujourd'hui à 623. Et pourtant, d'autres sont en train de nous appeler. Vous allez constater qu'il y a maintenant les orphelins, il y a maintenant les veufs et les veuves également qui crient au secours.
Les listes ont été remises aux autorités congolaise, mais les gouverneurs de la province du Sud Kivu précisent qu'il est difficile de confirmer les chiffres du comité des victimes puisque le manifeste a disparu. Le gouverneur Jean-Jacques Pourroussi minimise.
Nous ne savons pas combien de personnes qui auraient embarqué. Le nombre de corps que nous avons, c'est 31. Moi qui ont été confrontés ne parle pas de 600 victimes.
Une source à la division des actions humanitaires au Nord Kivu précise qu'un travail approfondi doit être fait pour identifier des victimes et ainsi éviter de fausses déclarations. Mais des centaines de familles sont toujours au bord du lac Kivu en attente des plongeurs promis par les autorités de Kinshasa pour sauter l'épave. Héritier Baraka, Goma et RFI.
La RDC dont vous parlez aussi tout à l'heure avec Juan Gomez, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous soutenez la candidature de Kinshasa au Conseil des droits de l'homme de l'ONU ? Malgré les critiques de certains opposants politiques et d'organisations civiles, vos appels au standard dès 9h10, heure de Kinshasa. On lui doit enfin les découvertes de Djaïli Amadou Amal ou de Michel Rakoutson. On lui doit le coup de projecteur sur plusieurs maisons d'éditions africaines. On lui doit, ou plutôt on lui devait, parce que le POLA s'est terminé, le prix Orange du livre en Afrique ne sera plus décerné après 6 années d'existence. La fondation Orange abandonne aussi son projet hexagonal. Vive colère du jury, Olivier Roger, notamment dans la manière avec laquelle ils ont appris la nouvelle.
Tant sur la forme que sur le fond, la décision de la fondation Orange a interloqué les membres du jury du POLA. Le prix disparaît sans que la fondation ait pris la peine d'en informer au préalable. Les membres du jury reprochent l'un d'entre eux, et encore moins les multiples comités locaux qui, dans les pays d'Afrique francophone, effectuaient l'indispensable travail de sélection des œuvres. Il a fallu des échanges de courriels outrés entre le jury, présidé par l'ivoirienne Véronique Tadjo, et la nouvelle déléguée générale de la Fondation Orange, Afida Genfoud, pour que celle-ci prenne sa plume pour justifier sa décision. La Fondation souhaite se recentrer sur l'éducation en milieu scolaire au travers d'associations. C'est son choix, mais elle abandonne au passage le seul prix africain à l'esprit décolonial, puisqu'il récompensait depuis 2019 un auteur et une maison d'édition du continent, un prix devenu en peu d'années aussi incontournable que sa déclinaison hexagonale, qui elle aussi disparaît après 16 éditions. Le POLA avait notamment mis en lumière l'autrice camerounaise Djaïli Amadou Amal, qui par la suite a remporté le Goncourt des lycéens en France en 2020.
Olivier Roger, merci beaucoup. 9h14.